au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Ce nous était l'ordinaire de faire notre prière avant sortir du matin. Faisant la croix salutaire, nous nous mettions en chemin. Tout notre pèlerinage, par beau temps ou par orage, avons le Seigneur béni. Encore que sous le feuillage, nous dussions passer la nuit.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au moment où je vous parle, se déroule le traditionnel pèlerinage de Chartres, 100 km, sous les semelles de catholiques fervents qui sont partis de Notre-Dame de Paris et qui expriment leur foi de la sorte, d'une cathédrale à l'autre. Les pèlerinages vont constituer notre thème de ce matin, en complicité avec Dominique Julia, directeur de recherche au CNRS et ancien directeur du Centre d'anthropologie religieuse européenne à l'École des hautes études en sciences sociales. Il vient de ramasser plusieurs décennies de recherches sur ce sujet dans un livre imposant intitulé « Le voyage aux saints ». Il y concentre son attention sur l'Occident du 15e au 18e siècle, mais sa curiosité s'élargit bien au-delà, dans l'espace et dans le temps, à propos d'un phénomène qui est très ancien et qui n'a pas cessé d'être actuel. Ainsi se met-il au service d'un comparatisme qui est notre vocation ici même. Il s'agit d'éclairer une pratique qui est tout à la fois singulière et collective, dans ses diverses composantes spirituelles bien sûr, mais aussi sociales, culturelles et même économiques, pour ne pas dire touristiques. Il s'agit de considérer comment les institutions politiques et ecclésiales se sont efforcées de canaliser, de gouverner ces foules en mouvement, sans toujours y parvenir. Il s'agit enfin de comprendre, sous la lumière de la longue durée, le contraste contemporain entre l'effondrement du nombre de prêtres catholiques et la résurgence de la vitalité des pèlerinages Saint-Jacques de Compostelle, en offrant l'exemple le plus impressionnant possible.
Je n'ai pas suivi l'habitude en me levant de bon matin pour gagner ma béatitude en automne sur les chemins. Mais de Paris à Compostelle, le voyage me semble long. Las, mon âme arrivera-t-elle dans les royaumes d'Outremont? Las, mon âme arrivera-t-elle dans les royaumes d'Outremont? Je n'ai pas suivi la cohorte de ceux qui s'en vont gémissant, ou qui volent de porte en porte, pèlerins devenus brigands. Je suis passé dans les villages, peuple qui n'avait jamais vu ce que c'est qu'un pèlerinage, et je leur ai donné Jésus. Ce que c'est qu'un pèlerinage, et je leur ai donné Jésus. N'ai pas encore quitté la France, suis en Auvergne seulement, mais je garde ma confiance et je m'en vais toujours content. Je ne sais si j'aurai mérite à prier Saint-Jacques le Majeur, mais j'offre tous mes sacrifices pour la couronne du Sauveur. Mais j'offre tous mes sacrifices pour la couronne du Sauveur. Nul ne saura combien de rêves m'ont déjà guidé dans ces lieux, comme celui-ci qui s'achève et qui disparaît à mes yeux. Mais le temps n'est pas si lointain où je partirai sur les routes, sac au dos, bâton à la main, me suive celui qui m'écoute. Sac au dos, bâton à la main, vers Santiago des Galiciens. Longue est la route qui mène à Dieu, si tu voulais, nous serions deux.
Dominique Julia, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous faire entendre une chanson de 1960, une chanson de Pierre Sélos, une chanson qui s'appelait pèlerinage. Pierre Sellos chantait à l'époque beaucoup pour les mouvements des jeunesses ouvrières et pour les jeunesses agricoles et étudiantes. On est en 1960, qui d'ailleurs constitue pour notre sujet peut-être un tournant intéressant. C'est un moment en tout cas sur lequel on peut s'arrêter un instant.
Oui, les années 60, enfin, je dirais la décennie 1960-1970, c'est très certainement un moment de rupture fort à l'intérieur de la catholicité, c'est-à-dire il y a le Concile Vatican II, par exemple. C'est un moment de basculement. Alors, avec le recul de 50 ans, nous en sommes conscients. Mais c'est un moment de basculement parce que, d'une part, effectivement, les vocations sacerdotales s'effondrent et elles passent d'environ 600 à 100 en 1975. Et les vocations sacerdotales sont à cet étiage.
Donc, par année, vous voulez dire.
Par année, depuis les années 1975, alors qu'elles étaient après 575, je pense, en 1966.
Combien aujourd'hui de prêtres meurent-ils ?
600 à 700 par an. C'est-à-dire, il y a là un basculement complet du maillage de la catholicité qui s'exprime d'ailleurs dans la nécessité qu'ont les diocèses aujourd'hui de regrouper complètement les paroisses et dans une sorte de déterritorialisation, c'est-à-dire que les paroisses rurales se sentent abandonnées du fait de cette privation de prêtres. Un prêtre a maintenant, dans certains diocèses, 22, 40 paroisses sous sa tutelle. Et des diocèses comme celui de Valence sont passés de 400 paroisses à 40.
Et en même temps, ce dernier demi-siècle est celui d'une résurgence des pèlerinages, avec sûrement des spécificités contemporaines, mais aussi des rimes, des rebonds par rapport à ce Moyen-Âge, à cette période moderne que vous chérissez.
Ah ben, tout à fait. D'une part, Paul VI s'était interrogé sur la possibilité de maintenir l'année sainte 1975. Il a envoyé une enquête à l'ensemble des évêques en 1975 pour leur demander « faut-il la maintenir ?» Et l'année sainte 1975 a été effectivement un succès, mais c'est pour dire l'interrogation qui s'est posée dans ces années-là, même au plus haut niveau de la catholicité, sur le maintien de pratiques très anciennes comme l'année sainte.
Alors ces pratiques très anciennes, nous allons y venir, peut-être avec l'épigraphe que vous avez choisi pour clore votre grand livre. Vous avez pris un extrait d'une chanson des pèlerins de Saint-Jacques de 1718 que voici. Quand nous partîmes de France en grand désir, le grand désir du voyage, quand nous partîmes de France en grand désir, nous avons quitté père et mère, triste, et Marie de Zeriès. Au cœur avions si grand désir d'aller à Saint-Jacques, avons quitté tous nos plaisirs pour faire ce saint voyage.
Oui, ce texte est issu d'un livret populaire de la Bibliothèque Bleue, qui a été un best-seller au XVIIIe siècle, les chansons des pèlerins de Saint-Jacques. Donc on chante sur le pèlerinage de Saint-Jacques depuis très longtemps, et il y a une gravure de Jacques Callot qui représente des mendiants qui sont des pèlerins de Saint-Jacques en train de chanter justement et de demander l'aumône en chantant, donc c'est très ancien, mais... Effectivement, le pèlerin est quelqu'un qui a quitté famille, patrie, qui est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle des gens sans aveu. C'est-à-dire, personne ne peut, au cours du pèlerinage, dire qui est le pèlerin, puisqu'il n'a personne qui puisse rendre compte de lui.
D'où la confusion fréquente avec le vagabond.
Et d'où la volonté des autorités de désigner qui est le pèlerin, et donc d'avoir des certificats. Et toute la législation de l'Ancien Régime, aussi bien en France d'ailleurs que dans les pays autrichiens ou en Italie, est d'obtenir des certificats de pèlerins qui vont attester de la qualité de ce pèlerin, c'est-à-dire d'où il vient, est-ce que l'évêque a signé le certificat ou les autorités municipales. Et en l'absence de toute anthropométrie, effectivement, vous assistez à un trafic constant chez les pèlerins de leur patente. C'est-à-dire, il faut qu'ils montent leur patente, mais quand ils n'en ont plus besoin, ils les passent à un autre pèlerin, et l'autre pèlerin va s'en servir.
Et pourtant, il y a une opposition, évidemment, ontologique entre la société des vagabonds, qui est de toujours, les cheminots, EAU, Et puis la société du pèlerinage, qui est une société de l'éphémère, de l'extraordinaire, qui est portée par l'espérance et l'attente de l'extraordinaire. Et au fond, s'y abolissent au temps de la route les distinctions sociales.
Oui, parce que le pèlerinage, d'abord, se distingue du vagabondage parce qu'il va vers un terme. Et il est orienté vers ce terme. Et d'ailleurs, la chanson que nous avons entendue en coup d'archet de votre émission, c'était une chanson qui désignait bien le terme, c'est-à-dire Saint-Jacques. Nous allons à Saint-Jacques. Et le pèlerin reçoit tout au cours de son itinéraire les demandes et les prières qu'il portera au pied de la statue de Saint-Jacques quand il aura pénétré dans le sanctuaire.
On peut dire que les différentes religions monothéistes ont toutes connu la tradition pèlerine, la tradition des pèlerins, et que chacun ancre au fond son récit des origines dans une figure marcheuse.
Oui.
Abraham, Bouddha, Jésus, Mahomet sont tous des marcheurs. Je me hâte de dire que nous laisserons de côté le En Marche parce que nous sommes en période électorale.
Oui, donc, effectivement, le pèlerinage, c'est d'abord la voie abrahamique. Abraham qui s'élance après avoir entendu le Seigneur pour se rendre dans la terre promise. Donc là, la voie abrahamique est très certainement à l'origine de cette religion marcheuse qui est effectivement un peu à l'opposé de la religion territoriale qui est marqué par le terreau paroissial.
Bouddha aussi, Jésus bien sûr, Mahomet sont très mobiles, très marcheurs.
Oui, le pèlerinage à la Mecque fait partie de l'un des piliers de l'islam, c'est-à-dire il faut au moins avoir fait une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque.
Nous ne nous attendrons pas aujourd'hui sur le pèlerinage de la Mecque, nous y avions consacré naguère une émission entière qu'on retrouve naturellement aisément sur la toile. Mais même avant les religions monothéistes, du côté des Égyptiens par exemple, on voit qu'en Haute-Égypte, Amon, le maître de tous les dieux, était conduit en effigie le long du Nil et que ce voyage provoquait, donnait lieu à un grand déplacement de foule. Chez les Hittites aussi, chez les Hittites, les Assyriens, les Babyloniens, il y a des pèlerinages fréquents.
Oui, non, les pèlerinages ad loca sancta ont été dans l'ensemble des religions, des phénomènes tout à fait fondamentaux. Moi, je me suis surtout intéressé au pèlerinage chrétien et je me suis cantonné à la vision chrétienne du pèlerinage, mais c'est très certain que les autres religions sont marquées par des voyages qui sont d'ailleurs étudiés encore aujourd'hui par les anthropologues.
Un grand homme, un grand personnage comme saint Augustin, l'évêque d'Hippone, a théorisé dans son œuvre l'influence du croyant comme marcheur dans les pas du Christ, sur les pas du Christ. Il écrit dans son sermon 169 « Le jour où tu dis « cela suffit », tu es déjà mort. Ajoute toujours, avance toujours, marche toujours. Ne reste pas en chemin, ne recule pas, ne sors pas de la route. » Qui n'avance pas piétine, qui s'écarte de la foi perd sa route. Mieux vaut un boiteux sur la route qu'un coureur hors de la route. Oui, marchons, courons, nous allons dans la maison du Seigneur. Marchons, courons, personne n'a le droit d'être fatigué, car nous allons là où nous ne serons plus jamais fatigués. Est-ce que ça concerne le pèlerinage ou en fait c'est plus symbolique?
On est complètement avec saint Augustin, nous sommes complètement dans le pèlerinage spirituel, c'est-à-dire c'est la foi comme une marche progressive vers Dieu. Et donc l'idée est que l'itinéraire du croyant est un itinéraire spirituel qui est une marche jusqu'à son terme qui concerne la vie et la mort, bien entendu. Et donc le pèlerinage spirituel, c'est l'approche de Dieu la plus forte par une spiritualisation de la vie elle-même. Et celle-ci n'a pas forcément besoin d'un pèlerinage matériel.
Donc c'est un peu métaphorique.
C'est tout à fait métaphorique. Je pense que, d'ailleurs, Augustin n'a pas, me semble-t-il, ne s'est pas intéressé ni aux reliques, ni au pèlerinage eux-mêmes, alors que d'autres contemporains sont au contraire très intéressés par le pèlerinage. Par exemple, Saint Jérôme, qui vient de Croatie, de la Croatie actuelle, Saint Jérôme s'installe en Terre Sainte. Il y accueille une de ses dirigées qui s'appelle Paola, et ça se passe vers 385, on est je dirais au IVe siècle, et dans une de ses lettres à la fille de Paola pour lui expliquer ce que faisait Paola. Paola s'était installée à Bethléem, dirigeait une communauté de femmes. Jérôme dirigeait la communauté d'hommes. Il dit « De même qu'on comprend mieux les historiens grecs quand on a vu Athènes, et le troisième livre de l'Énéide quand on est venu de Troie dans Sicile et de la Sicile à l'embouchure du Tibre, de même on entend mieux la Sainte Écriture quand on a vu de ses yeux la Judée et les ruines de ces anciennes cités. » Donc, au IVe siècle, l'idée, c'est quand on va à Jérusalem, parce que le pèlerinage en Terre Sainte commence, je dirais, dans la seconde moitié du IVe siècle, quand on va en Terre Sainte, c'est pour se remémorer les épisodes de la Passion. Du coup, chaque lieu précis, il y a une sorte de topographie sacrée de la Palestine qui s'installe, et on va dans chaque lieu et on récite sur le lieu même de la Passion le texte évangélique qui lui correspond. Et nous avons pour le IVe siècle le texte d'une certaine Égérie, qui est une dame d'Aquitaine ou de Galice, on ne sait pas très bien, mais c'est une moniale, et elle raconte à ses compagnes, elle est en Palestine, elle raconte toute la liturgie qui se déroule, les hymnes qui se déroulent au fête de l'Épiphanie, au fête du Vendredi Saint, du Samedi Saint, du jour de Pâques, et à chaque fois, on a exactement le déroulement de la liturgie avec la lecture des hymnes et des textes évangéliques qui correspondent à chaque lieu où se déroule la procession.
Et c'est bien en ce IVe siècle, après la conversion de Constantin, qui est une date essentielle, qu'on voit se définir les trois motivations majeures du pèlerinage, c'est-à-dire, comme vous le dites, la prière sur les lieux, avec les reliques, nous en reparlerons, mais aussi l'espérance de guérison, et puis les peines imposées, ça peut être une sorte... Et du côté des guérisons, vous allez voir comme ça dure. Écoutez, vous allez comprendre, c'est une émission de France Culture, le 29 février 2000, il s'agit des reliques de Sainte Apolline, la sainte de Bernac dans le Tarn, comme chacun sait.
Pourquoi vous êtes venu ce matin ?
Eh bien, pour les dames, pour cette messe qui est reconnue pour que les enfants n'aient pas mal quand les dents sortent. Hein. Donc,
Même pour les doubles gencives. Pour doubler les gencives, ils souffrent beaucoup moins. Les enfants ne souffrent pas, ils pleurent pas, ils chouinent, parce que bon, la douleur est quand même un peu là, mais beaucoup moins. Parce que moi, j'ai amené l'aîné et elle ne m'a jamais, jamais réveillée, ni la nuit, ni la journée. Elle ne m'a jamais embêtée pour les dents, quand je suis venue là. Alors que les doubles gencives, elle a beaucoup souffert au début. Et à partir du moment où je suis venue là, terminé.
Et comment vous l'aviez su ? C'est une amie, votre mère, une voisine ?
Parce que j'ai une cousine qui avait eu un enfant, qui l'avait amené, ça avait marché. Puis après, ça fait du bouche à oreille. Hein. Et puis bon, dans la France, c'est pas mal reconnu. Parce que pour l'aîné, il y avait des gens qui étaient quand même venus de Marseille, Bordeaux, Paris... Il y a vraiment toute la France qui vient se réunir là, pour justement que les enfants ne souffrent pas des dents. Moi, personnellement, je suis croyante, mais ça n'engage à rien. Ce mois, l'aînée, elle n'était pas baptisée, j'avais demandé si justement ça posait problème, puisque quand même, une église demande quand même au moins le baptême, et ça n'a pas du tout posé problème, puisque je l'ai baptisée après par la suite, et ça n'a pas empêché qu'elle n'ait pas souffert de dents par la même occasion. Mais il y a beaucoup d'amis qui sont venus, qui sont non-croyants, et sur qui ça a marché. Parce que cette sainte, elle protège surtout les enfants. Ce n'est pas une question de croyance ou de non-croyance. Parce qu'on peut croire en quelque chose, mais pas forcément en Dieu. Donc à partir du moment où on croit en quelque chose, on peut croire rien qu'en Sainte Apolline. Et ça fera que ça marchera ou ça ne marchera pas. Parce que même si on croit, il y a des enfants sur qui ça ne marche pas.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On peut croire en Sainte Apolline sans croire en Dieu. Dominique Julia, c'est un peu curieux. Non ?
Mon maître Alphonse Dupron aurait dit, voilà du Moyen-Âge en place. Parce que, effectivement, c'est le reportage qu'on vient d'entendre est tout à fait passionnant, parce que c'est effectivement tout l'équivoque et tout le problème que rencontre la hiérarchie vis-à-vis de la piété et de la dévotion populaire. Les pèlerins viennent chercher une guérison et ils attribuent au saint un pouvoir thérapeutique qui va guérir et protéger de la maladie leur famille, leurs proches, et donc ils viennent pour obtenir cette puissance thérapeutique, et le clergé qui est là ne se rend bien compte que ce n'est pas forcément l'orthodoxie du message chrétien qui est en jeu.
Toujours des maladies spécifiques en plus.
Des maladies spécifiques, oui. Et alors, ce qui est très vrai, c'est que la hiérarchie a beaucoup de mal à accepter cette dévotion populaire qui exige une matérialisation. Cette matérialisation peut être soit la relique, soit la statue du saint. Et on va à une date précise, qui est la date de la fête du saint, on s'y rend. Et on s'y rend de très loin, parfois, comme on l'a vu avec ce pèlerinage à Sainte-Apolline pour les Dents, mais vous avez dans le Perche des pèlerinages à Saint-Marcou. Saint-Marcou, le 1er mai, comme vous le savez, c'est la fête du travail, c'est aussi la fête de Saint-Joseph que l'Église a instituée en réponse à la fête du travail, mais c'est aussi la Saint-Marcou qui était le guérisseur des écrouelles. Et le roi de France tenait son pouvoir guérisseur de Saint-Marcou. Eh bien, Saint-Marcou, aujourd'hui, est honoré dans des villages du Perche, et je me souviens très bien d'un pèlerinage auquel je suis allé à Moulard. Moulard est à 4 km de l'autoroute après Chartres. Eh bien, à Moulard, le 1er mai, vous avez une messe qui s'y dit, et lors de la prière universelle, le clergé dit « Seigneur, faites qu'il n'y ait aucune superstition dans notre pèlerinage ». Ce qui est un signe qu'il a une certaine réserve à l'égard du pèlerinage. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a quasiment aucune réponse au verset de la messe pendant la durée de la messe, mais on se rue à l'issue de la messe, la grille du cœur s'ouvre, et les pèlerins arrivent avec autant de cierges que d'intentions qu'ils ont, et ils touchent la statue de leur cierge, et ils se font dire... À l'issue de cette messe, ils se font dire ce qui était autrefois dans la liturgie d'avant Vatican II, le dernier évangile, c'est-à-dire le prologue de l'évangile de Saint Jean, qui leur est dit, et le prêtre met une étole sur la tête du pénitent, dit l'évangile, le prologue de Saint Jean, et le rite est terminé. Mais il y a une sorte de discordance totale entre le rite orthodoxe de la messe, d'une part, et d'autre part, le rite pèlerin qui commence à l'issue de la messe.
D'où la méfiance constante des autorités ecclésiales à cet égard. Toujours la question des reliques, à la fois utilisées pour servir la foi et en même temps...
Il y a toujours une sorte de réserve, parce que tout toucher de reliques peut devenir superstitieux. Donc toute l'histoire du, je dirais, moderne est peuplé de cette chasse aux superstitions. Dans les visites pastorales, l'évêque fait inhumer dans le cimetière des statues dont il estime qu'elles sont indécentes, mais en fait, ces statues dites indécentes sont des statues auxquelles le peuple porte une particulière affection.
À la fin du XVIIIe siècle, on trouve encore chez le grand auteur qui est Mercier, Louis-Sébastien Mercier, des observations qui rencontrent les vôtres, Dominique Julliard. Un mélange de distance et d'attendrissement devant des pratiques qu'il dit curieuses autour de la chasse de Sainte Geneviève. Écoutez ce qu'il dit. « À Dieu ne plaise que je me moque de Sainte Geneviève, patronne antique de la capitale. Le petit peuple vient faire frotter des draps et des chemises, c'est ce que vous dites, à la chasse de la Sainte, lui demander la guérison de toutes les fièvres et boire en conséquence de l'eau malpropre qui sort d'une fontaine réputée miraculeuse. À Dieu ne plaise, ajoute Mercier, que je me moque de ce bon peuple qui tourne le dos au saint sacrifice de la messe pour se prosterner devant la sainte bergère. »
Oui, là, on a une observation très précise des actes pèlerins qui se déroulent même pendant les messes qui se disent à Sainte-Geneviève. Ce qui importe aux pèlerins, c'est que l'on fasse toucher au tombeau de Sainte-Geneviève les linges qui, justement, auront reçu le pouvoir thérapeutique de la sainte une fois qu'ils pourront le remporter chez eux. Et ce qui est très important, par exemple, pour le pèlerin, c'est de rapporter. Tout le monde se moque des marchands de souvenirs qui sont à Lourdes. Mais il faut bien imaginer qu'il y a une sorte de double fonction du pèlerinage. On dépose un ex-voto à l'arrivée du pèlerinage, c'est-à-dire on dépose l'acte de remerciement, et d'autre part, on repart avec des souvenirs qui ont touché les reliques, donc qui ont acquis un pouvoir de guérisseur fort. On revient avec, on ne peut pas revenir de pèlerinage sans rien. On revient avec toute une quincaillerie pieuse qui est quelque chose qui garde le souvenir de son passage. Parce que le pèlerinage est une sorte de cheminement sacré. Et on revient avec tous ces objets qui portent un sacré avec eux.
Même Montaigne lui-même, quand il passe par Lorette en Italie, dépose un ex-voto, en ayant beaucoup de peine à trouver d'ailleurs de la place sur un mur qui est lui-même couvert d'ex-voto antérieurs, un ex-voto pour sa fille, pour sa femme et pour lui-même.
Oui, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que on peut naturellement, comme le font les historiens de l'art ou les historiens de la religion, étudier l'ex-voto comme un objet. Ce qui me semble important dans le texte de Montaigne, c'est qu'il analyse l'ex-voto comme un acte. Ce qui lui importe, c'est de garder le souvenir de l'endroit précis où il a déposé son ex-voto pour pouvoir en garder mémoire. C'est une sorte d'art de la mémoire, le texte de Montaigne. Il a gardé mémoire de l'objet, de l'endroit où il l'a placé, qui atteste son passage. L'ex-voto est la marque qu'il est passé là, et il a inscrit dans sa mémoire le lieu où il l'a déposé.
Alors rappelez-nous, Dominique Julia, quels sont les principale route des pèlerinages à l'époque moderne de la chrétienté, Compostelle, Rome, Jérusalem.
Oui, pour Jérusalem, la route est maritime. C'est-à-dire, on s'embarque à Venise, il y a en général 2 départs par an, et il y a des armateurs qui sont spécialisés dans le voyage des pèlerins à Jérusalem.
Des tours opérateurs, en somme.
Alors, il peut y avoir des tours opérateurs, effectivement, puisque au début du XVIe siècle, alors que Venise n'est plus accessible aux pays autrichiens, il y a un armateur flamand qui propose une sorte de tour opérateur des 3 grands sanctuaires de chrétienté. On passe d'abord à la Corogne, qui est le port le plus proche de Saint-Jacques-de-Compostelle. On prend ensuite le détroit de Gibraltar. On va ensuite jusqu'à Jaffa, où l'on débarque pour visiter les lieux saints. Et on peut revenir ensuite, une fois les lieux saints visités, on peut revenir vers Rome, et même, comme le propose le tour opérateur, à la limite jusqu'à la Sainte-Baume, c'est-à-dire le lieu du désert de Marie-Madeleine, qui fut une interlocutrice de Jésus.
Dès le XIIe siècle, on voit fleurir les guides du pèlerin, les ancêtres du Baedeker ou des guides Johann ou des guides d'aujourd'hui. Écoutez cet extrait du guide du pèlerin d'Emery Picot du XIIe siècle. Pour rassurer les pèlerins, il explique que quand ils ne seront pas bien accueillis, quand on ne les fera pas profiter de l'hospitalité que la religion préconise, Dieu les vengera. Guide du pèlerin, Emery Picot, lu par Enrico Di Giovanni dans Euphonia sur France Culture le 20 mars 1989.
Les pèlerins pauvres ou riches qui reviennent de Saint-Jacques ou qui y vont doivent être reçus avec charité et égard par tous. Car quiconque les aura reçus et hébergés avec empressement aura pour hôte non seulement Saint-Jacques, mais notre Seigneur lui-même, ainsi qu'il l'a dit dans son évangile. Qui vous reçoit, me reçoit. Nombreux sont ceux qui jadis encoururent la colère de Dieu parce qu'ils n'avaient pas voulu recevoir les pèlerins de Saint-Jacques et les indigents. À Nantua, qui est une ville située entre Genève et Lyon, un tisserand avait refusé du pain à un pèlerin de Saint-Jacques qui lui en demandait. Il vit tout à coup sa toile tomber par terre, déchirée par le milieu. À Villeneuve, un pauvre pèlerin de Saint-Jacques s'adresse à une femme qui gardait du pain sous des cendres chaudes, lui demandant l'aumône pour l'amour de Dieu et du bienheureux Jacques. Elle lui répond qu'elle n'a pas de pain, à quoi le pèlerin répartit « Plût au ciel que ton pain se change en pierre. » Et le pèlerin, s'étant éloigné de cette maison, se trouvait déjà à une grande distance quand cette méchante femme, s'approchant des cendres pour y prendre son pain, ne trouve à la place qu'une pierre ronde. Le cœur contrit, elle se met aussitôt à la recherche du pèlerin, mais ne peut le trouver. À Poitiers, 2 vaillants pèlerins français, revenant jadis de Saint-Jacques, dénués de tout, s'en vinrent depuis la maison de Jean Gauthier jusqu'à Saint-Porchaire, demandant un gîte pour l'amour de Dieu et de Saint-Jacques, mais ils n'en trouvèrent pas. Enfin, dans la dernière maison de cette rue, auprès de la basilique Saint-Porchaire, ils furent hébergés par un pauvre, et voici que, par un effet de la vengeance divine, un violent incendie éclate et détruit rapidement cette nuit-là toute la rue, en commençant par la maison où ils avaient demandé tout d'abord l'hospitalité jusqu'à celle qui les avait accueillis. Ces maisons étaient au nombre d'un millier environ, mais celle où les serviteurs de Dieu avaient été reçus demeura par sa grâce indemne. C'est pourquoi chacun doit savoir que, riches ou pauvres, les pèlerins de Saint-Jacques ont droit à l'hospitalité et à un accueil plein d'égards.
Les évangiles sont en arrière-plan constamment, non, Dominique Julien ?
Oui, le texte est imbibé de références évangéliques. La femme s'aperçoit que son pain est changé en pierre, elle cherche le pèlerin et il a disparu. Bon, on ne peut pas ne pas penser à l'évangile de Luc sur les pèlerins d'Emmaüs où le Christ disparaît immédiatement après avoir rompu le pain. C'est-à-dire le pèlerin qui était passé était en fait le Christ. Et les miracles sont à la fois des miracles de bénédiction et de malédiction, puisque, je dirais, ceux qui ont refusé d'accueillir le pèlerin voient toute leur maison brûlée, sauf la maison qui a effectivement accueilli le pèlerin.
Le pèlerin ici a beaucoup de rencontres, des moments très très difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire dans cette citation. Je vois cet extrait de Jean Bonnecasse, qui est originaire de Pardy, qui est parti pour Compostelle en mai 1748. Vous nous donnez des extraits de son journal qui est vraiment poignant. Il quitte son village très piètrement équipé. « Je n'avais qu'une mauvaise paire de souliers qui ne me servirent que jusqu'à Pampelune. Depuis lors, je marchais pieds nus par tout le chemin jusqu'à mon retour à Logroño, ville de Castille, où une veuve touchée de compassion, elle a dû aller au paradis, une veuve touchée de compassion m'en donna une paire qui me servirent pour arriver chez mon père. Je fis au moins 180 lieues pieds nus. Il affronte la neige, la pluie. Un soir, étant en Castille-Neuve, nous ne trouvions point à nous loger. Nous fûmes obligés de nous réduire à coucher dans une baraque remplie d'eau et de fange. Je frissonne en écrivant ceci, en me rappelant le froid que je souffris cette nuit. » Fin de citation.
Oui, le pèlerinage est une très rude épreuve. Il y a la chaleur l'été, très certainement le Camino Frances sur le plateau de Castille est très dur à supporter en plein été. De la même façon, l'hiver, le passage des cols devient impossible.
Le matin, nous étions gelés, il était près de 10 heures que je n'avais encore pu ouvrir la bouche pour parler, et quand je pus l'ouvrir, il me sembla que toutes mes dents allaient tomber.
Oui, il y a une chapelle en haut du Mont-Cenis qui s'appelle la chapelle des Transis. Ça peut avoir le sens que nous donnons à Transis, mais Transis, c'est aussi le Transitus, c'est-à-dire le fait que on meurt au sommet du Mont-Cenis en hiver, c'est parce que, étant donné le froid que le pèlerin doit supporter, il faut imaginer que nous avons des pèlerins qui meurent le long des routes, tout au long de la route de Saint-Jacques, tout au long des routes qui vont vers le Mont-Saint-Michel. Par exemple, on note dans les registres paroissiaux de la Mayenne, on note des morts d'adolescents, puisque le pèlerinage du Mont-Saint-Michel, c'est un pèlerinage essentiellement de jeunes. Eh bien, on retrouve des morts dans les registres paroissiaux de la Mayenne, parce que ça a été relevé, donc on le sait, et ce sont quasiment des jeunes gens entre 15 et 20 ans.
Alors, une fois qu'ils sont arrivés, Dominique Julia, comment est-ce qu'ils rentrent chez eux ? Toujours à pied ?
Toujours à pied, c'est bien là la grande différence qui existe entre le pèlerinage contemporain et les pèlerinages anciens. C'est-à-dire que pour revenir, on repart à pied et on refait le même chemin. Alors, les itinéraires peuvent être plus sinueux que ne le disent les guides imprimés, mais on repart à pied. Tandis qu'aujourd'hui, le pèlerin arrive au terme et immédiatement, il s'en va à l'aéroport ou à la gare de Saint-Jacques-de-Compostelle pour repartir en train. Et il est le lendemain ou même le jour même, il est dans son pays natal. C'est-à-dire, il y a une immense différence entre le pèlerinage d'aujourd'hui où on s'arrête au terme et on rentre dans l'instant chez soi, alors que finalement, quand on allait de Reims à Rome, on mettait un mois et demi pour aller et on mettait un mois et demi pour revenir. Quand on allait de Lyon à Compostelle, on mettait 2 mois aller, 2 mois retour. Donc là, il y a vraiment le fait que les distances sont abolies par les moyens de transport modernes.
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle remonte à plus d'un millénaire.
Oui, la tombe de Saint-Jacques est, je crois, redécouverte, si l'on peut dire, au IXe siècle.
Pourtant, il avait été décapité à Rome.
Oui, oui. L'idée est que le corps de Saint-Jacques est arrivé par la mer. Mais la tombe est redécouverte au IXe siècle et le pèlerinage commence à la fin du XIe, début XIIe siècle. Et il se développe évidemment très très rapidement.
Et là encore, il a repris, comme nous savons, de façon tout à fait étonnante, une force contemporaine, multipliée par 100 le nombre de pèlerins, non ?
Oui, ben ça c'est tout à fait dans l'histoire des pèlerinages. Les pèlerinages peuvent avoir des éclipses extrêmement longues. Si vous voulez, la dimension du pèlerinage de Compostelle au XIXe siècle, c'est un pardon breton. Et ça intéresse uniquement la Galice. Et puis le pèlerinage à Compostelle reprend, je dirais, dans la seconde moitié du XXe siècle, mais surtout depuis les années 1980. Il y avait, donné par le bureau des pèlerinages de Compostelle, 2500 Compostela, c'est-à-dire 2500 certificats attestant que le pèlerin a accompli plus de 100 kilomètres à pied pour venir à Saint-Jacques, dans les années 1980. En 2010, ce sont 270 000 pèlerins, c'était une année sainte, c'est-à-dire l'année où la Saint-Jacques tombe un dimanche, et l'année dernière, qui n'est pas une année sainte, puisque la prochaine année sainte sera seulement en 2021, le pèlerinage a accueilli 278 000 pèlerins.
Et quel ressort pouvez-vous discerner à cette étonnante résurgence ? C'est pas une histoire linéaire, celle des pèlerinages, c'est une histoire cyclique souvent.
Justement, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de vase communicant entre, je dirais, des paroissiens fervents et revenants à l'église et d'autre part, des pèlerins sur la route de Compostelle. Je pense que les motivations des pèlerins de ce mouvement de masse, parce que c'est un mouvement de masse qui dépasse très largement les croyants, je ne pense pas que tous les pèlerins qui suivent le pèlerinage de Saint-Jacques sont forcément des croyants. Ils sont en tous les cas, pour la plupart, éloignés assez fortement de l'institution ecclésiale, et leurs motivations peuvent être très, très multiples.
Déjà, en fait, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, certains voulaient voir du pays, fuir l'étroitesse de leur milieu familial. Ce n'est pas seulement des motifs religieux de quête du salut qui les poussent en avant.
Oui, oui. Mais là, il y a eu toujours une volonté très forte de la part de la hiérarchie de séparer pèlerinage et curiosité. La curiosité est, aux yeux de la hiérarchie, quelque chose qu'il faut éradiquer. Donc, nous savons très bien qu'à l'époque moderne, les pèlerins qui vont à Rome visitent les mirabilia romae, c'est-à-dire les antiquités romaines, et ne se contentent pas de faire la visite des quatre basiliques ou des sept églises. Ils ne font pas seulement les parcours saints, ils visitent aussi le Forum, le Colisée, et ils ont une curiosité que la hiérarchie souhaiterait limiter. Et d'ailleurs, même encore en 1950, Mgr Felletin, cardinal archevêque, félicitait les pèlerins de l'année sainte pour leur discipline et le fait qu'ils n'étaient pas des touristes, mais des suppliants chrétiens.
Alors, il y a un moment qui mérite d'être considéré dans cette histoire des pèlerinages que nous esquissons ce matin, Dominique Julia, c'est l'arrivée de la réforme. La réforme avec un Luther qui est très clair, il faudrait supprimer tous les pèlerinages. Et un Calvin qui explique qu'il n'y a plus de lieu saint et que l'image ne serait en aucun cas représentée l'invisible. On arrive à l'iconoclasme, à la méfiance à l'égard des reliques. À propos de Saint-Pierre et de Saint-Paul, Calvin dresse un inventaire quasiment à la Prévert. Leurs corps sont à Rome, la moitié en l'église Saint-Pierre et l'autre moitié à Saint-Paul, et on dit que Saint-Sylvestre les pesa pour les distribuer ainsi en égales portions. Après tout cela, on ne laisse pas d'en avoir des os partout, à Poitiers, la mâchoire avec la barbe à Trèves, plusieurs os de l'un et de l'autre, à Argenton, en Berry, une épaule de Saint-Paul. Partout où il y a église qui porte leur nom, il y en a des reliques. Et on demande qu'on se souvienne de la cervelle de Saint-Pierre qui était au grand autel de cette ville. Tout ainsi qu'on trouve que c'était une pierre d'éponge, ainsi trouverait-on beaucoup d'eau, de chevaux ou de chiens qu'on attribue à ces deux apôtres. Les reliques de la Vierge, dit-il ailleurs, sont si nombreuses qu'elle avait un corps pour remplir un grand charnier.
Oui, non, Calvin, là, le pamphlet de Calvin est ravageur. Et en fait, pour Calvin, les reliques sont des mensonges et il faut préférer la parole du Christ à ses chemises ou à ses souliers. Donc il y a une révocation complète de la piété envers les reliques.
Les reliques qui sont au centre du phénomène du pèlerinage.
Les reliques sont toutes fausses, anachroniques, contradictoires. Donc on pourrait faire plusieurs corps d'un même saint à travers l'inventaire qu'il dresse, puisque c'est un avertissement. Le traité des reliques, c'est l'avertissement très utile qui reviendrait à la chrétienté s'il se faisait inventaire de tous les corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu'en France, Allemagne, Espagne et autres royaumes. Donc là, il y a une sorte de révocation radicale de la relique.
Donc des pèlerinages.
Or, cela se traduit, ce refus des reliques par des incendies de reliques. Ça se passe dès 1530-1540 dans le Saint-Empire romain germanique, mais ça se passe dans la décennie 1560 avec les guerres de religion. Il y a des pèlerinages qui sont complètement dévastés, comme Saint-Martin de Tours, Saint-Hubert dans les Ardennes, Saint-Gilles-du-Gard. Donc là, il y a des violences qui sont exercées à l'égard des reliques. Le corps de Saint-Germain d'Auxerre est jeté sur le parvis de la cathédrale.
Et vous faites un sort aux observations d'un protestant suisse, Thomas Plater, la famille des Plater, si chère à Emmanuel Leroy Ladurie, dont le voyage et les observations, Thomas Plater le jeune, sont dignes d'intérêt.
Il nous révèle là comment se constituent deux identités confessionnelles très différentes. Tant à Notre-Dame des Ardiliers à Saumur qu'à Montserrat, la description que fait Thomas Plater le jeune des ex-voto qui se trouvent dans ces lieux de vénération de la Vierge, Notre-Dame des Ardiliers à Saumur et à Montserrat, qui est le grand sanctuaire catalan, pour lui, ce sont des symboles de la superstition. En même temps, il y est très intéressé parce qu'il raconte tous ces ex-voto que l'on est passé. Il est médecin et on est passé de la mort à la vie. Il raconte comment on est passé de la mort à la vie, comment des gens qui étaient dans des situations de péril extrême, naufrages, chutes, sont revenus à la vie. Et c'est ça qui l'intéresse, soit les ex-voto anatomiques, soit les tableautins qui racontent le péril dans lequel s'est trouvé le pèlerin.
Et il essaie de comprendre les motifs de ces résurrections ou de ces guérisons.
Il est surpris et naturellement complètement réticent à l'égard de cette forme de dévotion pour laquelle il n'éprouve rigoureusement aucune sympathie, mais il est en même temps intéressé de par sa profession médicale.
Et parce qu'il constate des guérisons.
Il ne constate pas des guérisons, il constate simplement que sur le sujet du tableautin qui représente, il y a un malade qui se trouve guéri. Ce qui l'émerveille, c'est plutôt cette force de croyance en une possibilité de retour à la vie de la part des pèlerins qui viennent déposer leur offrande.
C'était bien avant Lourdes et pourtant, ce sont les mêmes questions qui surgissent.
Ah oui, absolument. Le pèlerinage de guérison est un pèlerinage prononcé après un vœu. On a fait un vœu au moment du péril le plus extrême, soit la maladie de l'enfant, soit sa propre maladie, soit un naufrage, et on vient représenter la scène dans laquelle on a été guéri par l'intervention du saint que l'on vient honorer.
Il y a aussi des pèlerinages qui sont imposés, des pèlerinages de punition en quelque sorte.
Oui, alors ça c'est très ancien. Il y a les pèlerinages pénitentiels, notamment en Irlande, dès le haut Moyen-Âge, du 6e au 9e siècle. Pour les crimes les plus importants, on doit faire un pèlerinage et souvent le plus lointain possible. Et puis cette pénitence religieuse, par exemple aller faire un pèlerinage à Rome, montrer que on a fait effectivement le pèlerinage. Il y a dans le droit communal des Pays-Bas et du nord de la France l'introduction de la peine qui exclut celui qui a détruit le pacte civique par un crime de sang. Les tribunaux communaux, les échevins expulsent le criminel et l'envoient dans des pèlerinages lointains. Alors, il y a la possibilité de rachat, par exemple. On sait qu'à Lille, 75% des criminels qui avaient une peine à remplir l'accomplissaient. Mais il y en a 25% qui la rachetaient. Et en général, il y avait des pèlerinages qui n'étaient pas rachetables, c'était les pèlerinages les plus proches. Par exemple, à Lille, on vous envoyait le pèlerinage aux Trois Rois à Cologne. Ça, vous ne pouviez pas le racheter.
Comment on rachète ?
On rachète par des sommes d'argent, soit par exemple des choses matérielles, des briques ou des pavés. Il y a un nombre de pavés qui est donné pour racheter le pèlerinage et ne pas avoir à le faire.
Il y a un moment qui est important aussi dans cette histoire des pèlerinages en France, c'est la période de la Révolution française qui ne sait pas vraiment comment traiter ces comportements populaires si familiers aux nouveaux citoyens.
C'est très compliqué la Révolution française parce qu'elle démarre avec le 14 juillet et le 14 juillet, il y a eu tout de même effusion de sang. Or, tout l'été 89, on ne le rappelle pas assez, la ville est parcourue de processions de tous les quartiers qui viennent refaire l'union avec la patronne de Paris et chaque quartier vient apporter des pains et des brioches qui sont bénis, qui passent par Notre-Dame et sont transportés ensuite à l'hôtel de ville pour être distribués.
Donc, Sainte-Geneviève.
On part d'abord à Sainte-Geneviève, patronne de Paris, on fait bénir les pains et les brioches, on passe ensuite, il y a une station à Notre-Dame et on va à l'hôtel de ville. Et ça, c'est la réconciliation de Paris avec sa patronne. Et puis, en 93, par exemple, jusqu'à l'été 93, les pèlerinages se déroulent sans encombre. Mais ils commencent à interpeller les autorités qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces rassemblements, qui peuvent être des rassemblements qui ne sont peut-être pas républicains. Et donc, il y a des autorités, comme par les autorités du district de Versailles, qui demandent au curé qu'est-ce que c'est que tous ces pèlerinages qui sont contre la sécheresse et qui se déroulent vers Sainte-Geneviève-des-Bois, vers Sainte-Geneviève de Paris ou vers Sainte-Geneviève de Nanterre. Ils se demandent si ces rassemblements ne sont pas contre les autorités. Et il y a le curé de Paray, vieille poste, écrit aux autorités du district de Versailles « Prenez-y garde, citoyens, il y a une très grande distinction entre rassemblement et procession. Qui dit rassemblement suppose, comme il paraît que vous l'entendez et que je l'entends moi-même, un nombre de mauvais citoyens réunis dans quelques lieux secrets pour désorganiser les bons citoyens. Qui dit procession dit un nombre de citoyens et de républicains réunis de cœur et d'esprit qui vont publiquement d'une église à l'autre pour demander à Dieu leurs besoins. » Il y a donc là, si vous voulez, deux conceptions, rassemblement, procession. Le curé explique bien la différence qu'il voit entre les deux, alors que les autorités ne voient dans ces pèlerinages que superstition et danger pour la République. Donc c'est le problème de l'éradication. Alors quand on passe à la phase des christianisatrices, on passe à une phase qui est très violente, c'est-à-dire de volonté de crémation des reliques. Les reliques de Sainte-Geneviève sont brûlées, en place de grève, puis jetée à la Seine.
Mais d'autres sont enterrés de façon qu'on puisse les faire ressurgir éventuellement plus tard.
Oui, mais parce que les scènes qui se déroulent autour des reliques que les autorités veulent exhumer sont des scènes très violentes. Et donc, je dirais, le compromis qui s'établit entre les autorités et la population qui assiste à ces scènes est un compromis qui est celui de l'inhumation du saint. Par exemple, à Saint-Rémy, près de Reims, les autorités disent « oui, bien, inhumons Saint-Rémy, puisque nous devons l'inhumation à des restes humains. Au nom de l'humanité, il faut inhumer Saint-Rémy. » Mais je dirais que l'inhumation, à la différence de la crémation, l'inhumation est une profanation réversible. C'est-à-dire que dès 1795, quand la liberté de culte s'installe, il y a exhumation des corps saints.
Sainte-Geneviève joue un rôle essentiel de ce point de vue-là. Il y a le bouche à oreille qu'évoquait la dame au mal de dents des bébés.
Oui, oui.
Tout à l'heure, Sainte-Geneviève, comme elle avait gardé les moutons à Nanterre et qu'on était content de son exactitude, on mit sous sa houlette et son inquiétude un tout autre troupeau et bien plus volontaire. Vous avez reconnu Peggy.
Bien entendu.
Transition vers Peggy, parce que Peggy, c'est l'homme du pèlerinage de Chartres.
Peggy est l'homme du pèlerinage de Chartres et il ne faut jamais oublier qu'il est allé en pèlerinage à Chartres pour accomplir un vœu, c'est-à-dire un geste extrêmement ancien du pèlerinage, le vœu de remerciement de la guérison de son fils. Et il y a là un geste intime qui est important, c'est que ce geste intime n'est pas dit publiquement, mais il fait partie intégrante de la démarche pèlerine. Et ça, je crois que il y a entre l'expression publique du pèlerin et d'autre part l'intimité de sa démarche un écart qu'il ne faut jamais oublier.
Alors on l'écoute, Peggy.
Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour. Et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon. À peine quelques toits font comme un archipel. Du vieux clocher retombe une sorte d'appel. L'épaisse église semble une basse maison. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules comme un rang de château sur la barque amirale. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans patras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Nous avons fait semblant d'être un gai pèlerin et même un bon vivant, et d'aimer les voyages, et d'avoir parcouru 131 bailliages, et d'être accoutumé d'être sur le chemin. Puisqu'il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table, et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable, et que c'est bien assez de se lever matin.
Peggy est élu ici, présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, Peggy est élu ici par Pierre Vanneck en 1958, cet extrait d'un disque que la discothèque a repiqué pour nous, Dominique Julia.
Nous avons fait semblant d'être un gai pèlerin, c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire que le pèlerin donne une apparence publique de son pèlerinage, mais il ne dit rien de sa démarche intime. Je pense en particulier, ça me fait penser à Ignace de Loyola quand il va à Jérusalem. Il dit qu'il va à Jérusalem parce qu'il veut y rester définitivement. Ça, c'est l'expression publique du pèlerinage. C'est ce qu'il dit à tout le monde, à tous ses compagnons, c'est ce qu'il dit. Et la destination secrète, c'est que il veut aider au salut des âmes. Aider au salut des âmes, c'est ce qui deviendra la Compagnie de Jésus. Mais ce désir secret n'est jamais dit, pas même au provincial des franciscains qui se trouve à Jérusalem. Là, il y a discordance totale entre l'expression publique et l'expression privée. Je ne peux pas ne pas penser que dans le poème de Peggy, il y a aussi l'allusion. S'il fait semblant d'être un gai pèlerin, c'est qu'il y va pour prier à l'égard d'un ami qui est mort de manière violente et pour lequel il éprouvait une très grande amitié. Donc le pèlerinage est aussi une demande de recours, une prière de recours. Et ce qui est très fort chez Peggy, c'est justement le fait que pour lui, le recours à Notre-Dame s'exprime à travers cette marche, à travers la Beauce, et le poème est magnifique.
Vous parlez de l'intimité du pèlerin. On voit bien que cette histoire est déséquilibrée, puisqu'on connaît beaucoup plus aisément les comportements, les attitudes des institutions, l'extérieur des pèlerinages. On l'appréhende beaucoup plus aisément que le fond des âmes et des cœurs. Je vais vous faire entendre cet extrait du journal d'un paysan, d'un artisan, Picard, Guillaume Magnier, qui a été recueilli et publié au 19e siècle. Le journal est du 18e. Publié au 19e siècle par le baron de Bonneau Douette. C'est une lecture de Maurice Bourbon sur France Culture le 19 août 1968.
Étant arrivé dans ce village, dans une maison entre autres, où nous étions pour coucher, il est bon de dire que la méthode du pays est pour les hommes et femmes qu'ils couchent tout habillés et changent de linge deux fois par an. Les bœufs couchent dans la même maison, à la réserve d'un bâton qui les sépare avec l'auge à manger. Les cochons et autres bestiaux sont libres de battre la patrouille la nuit par tous les coins et recoins de la maison. Nous autres étions couchés devant le feu sur 3 ou 4 brins de paille qui couraient l'un à l'autre, si bien que l'heure de la patrouille des cochons étant arrivée, sont venus nous joindre où nous étions. Ils ont d'abord éventé un navet que Herman portait dans son sac, depuis plus de 50 lieues, par curiosité, et dans la vue d'en faire une fricassée pour le régal de celui de nous qui serait roi en découvrant le premier, le clocher de Compostelle. Le 31, fûmes à Bréa, à Nervoiscade, Las Dos Casas, où nous avons couché. Le 1er de novembre, arrivé à Saint-Jacques. Novembre. Du 1er de ce mois, sommes allés à Umesnar, qui est dans un fond. Puis on monte une montagne pour aller à Lavacouille, Lavacola, à la Fouguère, Fabnega, à Saint-Mar, San Marcos. J'ai pris l'avance, une lieue, seul pour voir le premier, le clocher, ce que j'ai vu. Il y a trois clochers de pierre, savoir celui des Jésuites, fait par les Anglais, dont l'église n'est pas loin de celle de Saint-Jacques. Cette église est une de celles que l'empereur Charlemagne a fait faire. Celle de Saint-Jacques a deux clochers, faits dans le même goût. L'ayant aperçu, j'ai jeté mon chapeau en l'air, faisant connaître à mes camarades qui étaient derrière que je voyais le clocher. Tous, en arrivant à moi, ont avoué que j'étais leur roi. Nous sommes arrivés ensemble à Talat, qui n'est qu'à un quart d'heure de lieu de Compostelle, qui est au bas d'une montagne.
On dédiera, si vous voulez bien, Dominique Julien, ce texte à nos auditeurs et à nos auditrices qui peuvent avoir le goût, quelle que soit leur motivation, et maintenant ils sont de plus en plus nombreux, le goût d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour savoir s'ils seront des rois ou non, c'est-à-dire s'ils verront le premier, à partir de la petite colline qui est à côté, les clochers dont il est question ici.
Oui, le texte de Guillaume Manier rappelle qu'il y a ce Monte del Coso, qui est le mont de la joie, qui est le mont où, finalement, on voit le terme. Pourquoi le mont de la joie? Parce que on touche quasiment au terme. Et donc, être roi dans la culture paysanne, être roi du pèlerinage, c'est être le premier à avoir vu le clocher de Compostelle. Ce que je retiens du texte de Guillaume Manier, c'est aussi cette description de la saleté du lieu où il est accueilli. Il est vraiment dans la fange et dans la saleté, et c'est vraisemblablement assez différent de ce qui peut exister en Picardie. Enfin, ce que je retiens, c'est surtout l'exultation du terme, c'est-à-dire arriver au terme du voyage, après un voyage si long, comme le disait la chanson qui était au début de l'émission, arriver au terme, c'est l'exultation, et tous les récits de voyage à Jérusalem disent aussi le moment où les pèlerins voient pour la première fois les clochers de Jérusalem, ils descendent de leurs ânes, ils se mettent à genoux et ils chantent un tédéum. L'exultation du terme se retrouve absolument dans tous les récits de pèlerinage.
Exultation et exaltation.
Je pense que le moment le plus intense du pèlerinage, c'est le moment effectivement de l'arrivée, c'est-à-dire il y a un immense effort qui est derrière, et tout cet effort touche au terme. Et donc toucher, c'est essentiel. Par exemple, le geste qui consiste à mettre sa main, à poser ses doigts au pied de la statue de Saint-Jacques, du portique de la gloire, il y a une boule. Il y a tant de mains qui se sont mises sur cette boule que les phalanges des doigts s'inscrivent complètement dans la pierre. Et puis, assister à la liturgie solennelle de Saint-Jacques, quand c'est le jour de Saint-Jacques, avec cet encensoir géant qui se balance d'une voûte à l'autre, cet encensoir s'appelle le Botafumeiro, et c'est quelque chose qui est effectivement extraordinaire. Quand il faut l'arrêter, il est retenu par cinq confrères qui le retiennent comme une prise de rugby, parce que c'est pour arrêter un encensoir aussi géant, il faut des gens tout à fait solides. Et il y a, me semble-t-il, dans l'arrivée, le geste du toucher qui accomplit en quelque sorte pour le pèlerin tout son itinéraire. Le reste ne sera pas dit, et le pèlerin ne dira jamais, parce que ça relève finalement de son intimité et de sa relation avec la puissance céleste qu'il invoque. Le reste, il ne le dira pas.
Eh bien, nous resterons, Dominique Julien, pour clore cette émission sur ce silence. Parfois, le silence est puissant à la radio. Merci beaucoup. Merci. Votre livre s'intitule « Le voyage au saint », je l'ai dit, « Les pèlerinages dans l'Occident moderne, 15e-18e siècle ». C'est un ouvrage publié à la fois par l'École des hautes études en sciences sociales, par Gallimard et par Le Seuil. Je voudrais également rendre hommage à un ouvrage de Philippe Martin, très utile. Philippe Martin est professeur d'histoire moderne à l'Université de Lyon 2. Pèlerin, 15e, 21e siècle, dans l'excellente collection Bibliste de CNRS Éditions. L'ouvrage d'Antoine Debecq, tout récent, paru chez Perrin en 2016, qui s'intitule « Une histoire de la marche », qui comprend un important chapitre sur le pèlerinage, chapitre sur lequel, en même temps que sur vos travaux, j'ai fait fond pour préparer notre rencontre. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger, je me résigne à dire podcaster, cette émission. Samedi prochain,
Samedi prochain, nous parlerons du tirage au sort en démocratie. On en parle beaucoup, et pas seulement à l'université. Et j'inviterai l'excellent historien qu'est Olivier Christin, historien notamment du suffrage universel. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte, une émission réalisée comme chaque semaine par Anne Kobilac, avec à la prise de son Élise Leu, qui est familière de notre émission, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et avec, pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Hervé Evano. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.